Restez informés tout au long de la journée. Écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
À la une de l'actualité de la mi-journée, le capitaine Ibrahim Traoré promet de faire le nécessaire pour résoudre un tant soit peu les problèmes des universités burkinabées. Le chef de l'État a rencontré hier les étudiants de l'université Joseph Kizerbo. À la une également, l'appel à la solidarité de l'armée. L'état-major général des armées sollicite auprès des bonnes volontés des camions à titre gratuit ou à prix social pour assurer le ravitaillement de plusieurs zones à fort défi sécuritaire. Football, les étalons du Burkina ne pourront pas jouer contre le Togo à Ouagadougou fin mars. Déception du ministre des Sports après sa visite au stade du 4 août, toujours en réfection. Et selon des rumeurs, les femmes enlevées à Arbinda auraient été retrouvées au Mali. L'information est fausse, affirme Bourema Werem, l'ancien maire de la localité. Il est notre invité du jour. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, était hier mardi à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Il est allé rencontrer les étudiants de ce temple du savoir où lui-même il a étudié la géologie. Au cœur des échanges, les problèmes auxquels font face les universités du Burkina dans leur ensemble. Il était également question du bilan et des perspectives de la gestion de la crise sécuritaire. On en sait plus avec Abdulaziz Zoulabou.
En mots introductifs, le capitaine Ibrahim Traoré dit être conscient des problèmes qui minent le milieu estudiantin pour le peu qu'il a pu constater lorsqu'il était lui-même étudiant. La suite des échanges à bâtons rompus a permis aux étudiants venus de plusieurs universités du Burkina de mettre sur la table leurs préoccupations majeures. Parmi elles, l'étroitesse de la voie qui mène à l'université Thomas Sankara, qui est la cause de décès de plusieurs étudiants. Des engagements ont été pris séance tenante dans l'optique d'apporter des solutions. Ibrahim Traoré, président de la transition.
Donc, dès cette semaine, je vais voir avec le ministre des Infrastructures qu'est-ce qui peut être fait dans l'urgence pour que la voie redevienne une deux voies au moins.
L'autre question, et non des moindres, il s'agit des activités académiques de certaines universités au ralenti, voire aux arrêts du fait du terrorisme. C'est le cas pour le centre universitaire de Dori et celui de Waïguia, Ibrahim Traoré.
Vous avez dû remarquer que nous avons redécoupé le territoire. Parce que nous étions à trois régions et ça ne permet pas de quadriller efficacement. Nous avons redécoupé et on a créé ce qu'on appelle des groupements de force. Et je pense que pour ceux qui sont à Dori, ils doivent bientôt constater l'évolution. Waïguia également, j'ai même vu une marche avant-hier pour réclamer plus de sécurité. C'est normal. Dans les heures à venir, vous verrez aussi ce qui va se passer autour.
Le chef de l'État était préalablement face aux anciens chercheurs et aux personnels de l'administration de l'Université Joseph Kizerbo. À ce niveau, les échanges se sont tenus à huis clos.
Cette visite du chef de l'État a suscité de l'engouement au sein des étudiants, des échanges instructifs pour bon nombre d'entre eux qui disent avoir surtout apprécié la franchise de leur hôte. Reportage toujours avec Abdulaziz Zoulabou.
Amassés par centaines sous le soleil brûlant, ils étaient nombreux, ces étudiants, à ne pas vouloir se faire compter l'événement. Certains veulent juste voir à quoi ressemble ce jeune capitaine dont le discours fait quelquefois penser au père de la révolution, le capitaine Thomas Sankara. Les plus chanceux se sont procurés de la place dans les deux amphis aménagés pour ce rendez-vous. Quelques heures d'attente et Ibrahim Traoré fait son entrée, acclamé par les étudiants. Après les échanges, les éloges ne manquent pas. Lati Fatou Edraogo est étudiante à l'université Joseph Kizerbo.
Maintenant que nous avons en face de nous un président digne de son nom, un président qui, par ses actes, répond à nos requêtes.
Le message qu'il avait à l'endroit de ses étudiants semble également bien reçu. Salomon Yameogo, étudiant en lettres modernes à l'université Joseph Kizerbo.
Sur la question sécuritaire, le président nous a demandé à être engagés, à être soudés pour ramener des gens qui sont dans des tentatives de mauvais chemin à regagner la nation.
Les étudiants se sont à leur tour engagés à cultiver le patriotisme et la tolérance, vœux formulés par le chef de l'État.
On reste dans le monde estudiantin, sortie de promotion des étudiants en licence infirmière et obstétricale de l'Institut supérieur privé de santé Sainte-Edwige de Dédougou et de Ouagadougou. Cette 15e promotion, qui a pour nom de baptême agent de santé et défi sécuritaire, dit être prête à servir partout où le besoin se fera sentir. La cérémonie de sortie a eu lieu hier mardi 17 janvier 2022 au sein de l'Institut Sainte-Edwige, en présence du ministre de la Santé, le compte-rendu de Solomani Kema et Mariam Soma.
Jure-tu de mutiliser tes connaissances que pour récupérer, promouvoir la santé et de t'abstenir totalement de provoquer la mort?
Ils sont 412 agents de santé prêts à mettre en pratique les connaissances acquises à Sainte-Edwige. Ce sont entre autres des infirmiers, des sages-femmes, des biologistes et des agents de santé communautaires. La promotion réitère son engagement et son dévouement à mettre au service de la population leur savoir-faire. Nassira Touporgo est la déléguée générale de la promotion.
Nous avons tous les bagages nécessaires pour relever n'importe quel défi. Nous espérons vraiment que nous aurons la possibilité d'exprimer ce que nous avons appris ici dans l'ensemble du territoire.
Et pour mener à bien leur mission, la directrice générale a prodigué des conseils aux nouveaux agents, Edwige Ilboudo.
Mon premier mot, c'est rendre grâce à Dieu, parce que quand tu as un enfant, tu aspires à ce qu'il ait un métier, une profession. Mon plaidoyer auprès des lauréats, c'est de s'associer. Parce qu'à l'intérieur du Burkina, la santé pose problème. S'ils s'associent, c'est les populations qui gagnent en matière de santé.
La déléguée générale de la promotion et la directrice générale de l'Institut ont fait un plaidoyer au ministre en charge de la santé afin de remettre en liste les concours de la santé. Le ministre en charge de la santé d'y prêter une oreille attentive. Robert Kargougou.
Ces 412 agents de santé viendront renforcer cette continuité, qu'ils soient dans la fonction publique ou alors au niveau de certaines organisations avec lesquelles nous travaillons et qui permettent de recruter ce type d'agents de santé.
En 18 ans d'existence, l'Institut supérieur de santé Sainte-Edwige a formé plus de 7000 agents et cadres de santé. Sainte-Edwige a pour mission de contribuer à l'enseignement des sciences de santé, à la formation d'agents de santé consciencieux et compétents.
Je vous l'annonçais en titre, en vue d'assurer le ravitaillement de plusieurs localités classées en zone rouge, l'armée a sollicité mardi des camions de particuliers dans l'optique de continuer à assurer le ravitaillement des populations vivant dans les zones à fort défi sécuritaire. Le chef d'état-major général des armées lance un appel à l'ensemble des Burkinabés afin de mobiliser les moyens logistiques nécessaires, peut-on lire dans le communiqué de l'état-major. Il demande à toutes les bonnes volontés de mettre à la disposition des forces armées nationales à titre gratuit ou à prix social des camions avec conducteurs pour le transport des vivres et des denrées de première nécessité au profit de nos concitoyens en difficulté. Le patron de l'armée dit savoir compter sur le patriotisme et l'esprit de solidarité des Burkinabés pour la réussite de cette opération qui s'inscrit toujours, selon le communiqué, dans la vision du président de la transition, chef de l'État. Autre annonce, le gouverneur de la région du Centre-Est a annoncé la fermeture de 20 sites d'exploitation artisanale de l'or dans un arrêté dont Omega Media a obtenu copie. Selon l'arrêté en date du 16 janvier 2023, la décision prend effet à compter du 23 janvier prochain et concerne des sites répartis dans 9 communes des provinces du Boulgou, du Koupé-Lougo et du Kouritenga. Dans ce document qui ne précise pas les raisons de cette décision, le gouverneur de la région du Centre-Est invite les hauts commissaires de province, les premiers responsables des forces de défense et de sécurité au niveau déconcentré, à veiller à l'application des termes du présent arrêté. Et lutte contre la corruption, la transition donne carte blanche à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. pour traquer toute personne épinglée dans une malversation financière et autres infractions assimilées. Le ministre Bassolma Bazier l'a dit le lundi dernier à Kourougou lors de la rencontre du cadre de concertation des organes de contrôle de l'État de l'ordre administratif qui se tient du 16 au 21 janvier. Occasion pour la SELC de faire le bilan de ses activités en vue de se doter d'une feuille de route pour cette année. La correspondance à Kourougou de Sabuna Ouedraogo.
L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, se satisfait des activités menées sur le front de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées avec la réalisation de plusieurs missions de contrôle, d'activités de sensibilisation, de suivi de recommandations et l'interpellation des autorités politiques et administratives sur des mesures à prendre pour conformer la gestion publique aux normes qui les gouvernent.
Il y a naturellement aussi des sanctions qui sont prononcées.
Philippe Nuon, contrôleur général d'État.
Il y a des constats en termes donc de responsabilités pécuniaires qui ont été faites.
Cette année, l'ASELC compte accentuer ses actions afin de véritablement forger une culture de l'éthique et de la probité dans la conduite des affaires publiques. Cette démarche ne pourrait aboutir sans l'accompagnement des autorités de la transition. À ce sujet, les nouvelles autorités ont promis la soutenir et envisagent même supprimer la Haute Cour de justice. Bassolma Bazier, ministre d'État en charge de la fonction publique.
Que vous soyez député, que vous soyez ministre, on ne devait pas aller vers la mise en place d'une Haute Cour. Il faut juger les citoyens au même pied d'égalité. Si la façon de juger, la façon de faire, permet à tout un chacun de savoir qui n'est pas un super citoyen, nous allons réfléchir par deux fois avant de poser des actes.
Ce soutien de la transition vient réconforter l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption qui promet poursuivre sa mission de salubrité publique. Sabuna Ouedraogo, Kourougou, Radio Omega.
Omega Sport.
Les étalons reçoivent les éperviers du Togo le 21 mars prochain pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Tous espéraient voir ce match se disputer au stade du 4 août de Ouagadougou, mais la rénovation totale du stade tant attendue ne pourra pas être effective pour cette échéance. Le constat amer a été fait hier mardi 17 janvier 2023 par le nouveau ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Boubacar Savadogo, lors d'une visite en compagnie des responsables des sports, du président du CNSB et des proches collaborateurs et des journalistes Ibrahim Baïli.
Cette visite du ministre Savadogo avait pour but de toucher du doigt les réalités du stade du 4 août en rénovation. Accueilli à son arrivée par les responsables du chantier, il fut conduit dans une salle pour une projection et avoir des explications sur les travaux en cours. Une séance de vérité qu'il a souhaité afin d'être situé. Entre prise de notes et remarques, les échanges ont été souvent houleux.
Parce que vous êtes là depuis, vous avez fait des milliards, je ne sais même pas comment c'est reparti. Et vous êtes toujours là pour des délais, pour nous donner des délais qui ne tiennent pas la route. Moi je suis convaincu que jusqu'au 30 mars, vous n'aurez pas ça. Ce n'est pas normal. Ok, comment je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures. Vous donnez la date, ça ne va pas. Les étalons vont jouer dehors, c'est vous qui payez les dépenses. C'est vous qui dépensez pour que les étalons aient joué. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça.
C'est vrai, je pense que dans le mois de juin, on était ici aussi avec les journalistes, où on nous avait donné le mois de septembre pour rendre l'ouvrage. Ce jour, j'avais des appréhensions. Parce qu'au regard de l'étendue des travaux, il n'était pas évident que ça puisse finir en septembre. Aujourd'hui, nous sommes là encore, on nous parle de mars, on nous parle... Il faut dire la vérité.
Le dernier mot revient à M. le ministre. Il faut que vous tapez du poing sur la table, sinon ça ne va pas marcher.
Pour que la tension ne continue pas à monter, on a écouté beaucoup de choses. Alors le président des étalons a dit que ça revient au ministre. Le ministre doit taper sur la table. J'ai tapé sur la table.
À entendre les explications des responsables du chantier qui donnent des délais d'exécution assez courts, quelques travaux et non des moindres ne sont pas encore achevés. Le ministre Savadogo.
Ce que nous voulons, c'est que le stade du 4 août, qui porte le grand symbole du 4 août, qui est une infrastructure qui est la plus grande infrastructure sportive de notre pays, soit porte le flambeau. C'est ce qui nous intéresse. Le président a été très clair. On ne va pas revenir sur qui a fait qui, quoi, qui n'a pas fait quoi, etc. Nous voulons qu'après notre travail, les choses soient claires. Et que quand on va revenir, le jour qu'on dira le stade est livré, tout le monde soit fier.
Le stade du 4 août ne sera donc pas prêt tout de suite et ce fut pour le ministre Sabadogo de présenter ses excuses à tous les acteurs du sport, aux supporters, à l'ensemble du peuple burkinabé pour ce contretemps. Le ministre Sabadogo.
M'excuse auprès du peuple burkinabé, auprès des amateurs du sport, auprès des supporters des étalons, auprès des supporters de tous les clubs, de tous les sports, du fait qu'on ne peut pas honorer cette date qui avait été donnée. C'est une honte pour nous tous, ceux qui sont à l'œuvre, ceux qui payent, ceux qui sont en contrôle, etc. Nous n'avons pas respecté les amateurs du sport et nous ne voulons plus que ça arrive. Je m'excuse du fond du cœur et je ferai tout ce que je peux avec les acteurs pour que cela n'arrive plus.
Le stade du 4 août, qui n'est pas qu'un stade de football, sera disponible en temps opportun et prendra en compte les autres disciplines telles que l'athlétisme, dont la piste est également à revoir, sans oublier la pelouse. Pour l'instant, un comité de suivi sera mis en place et sera présidé par les acteurs pour une bonne suivi de l'exécution des travaux.
L'invité de la rédaction.
La cinquantaine de femmes enlevées à Arbinda étaient sorties cueillir des fruits sauvages par manque de nourriture et non pour des habitudes saisonnières. C'est ce que nous dit l'ancien maire de la localité, Bourema Ouerem. Selon lui, il s'agit de 53 femmes en tout qui ont été enlevées. Où sont-elles actuellement? Pas au Mali en tout cas, affirme notre invité. Il est interrogé par Denis Ongrana.
Bourema Ouerem, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, on apprend qu'une cinquantaine de femmes ont été enlevées. Certains même parlent de chiffres qui seraient plus élevés. Qu'en est-il?
Avant tout propos, je souhaiterais présenter mes vœux de l'année 2023 à l'ensemble de la population du Burkina. Que Dieu veille sur le Burkina et que les nouvelles autorités puissent reconquérir notre territoire afin que la stabilité y demeure. Et par rapport à la question, effectivement, les chiffres évoluent d'une information à une autre, d'une source à une autre. Mais particulièrement pour ce qui me concerne, depuis que l'événement s'est passé, j'ai enregistré à partir de mes sources 53 femmes.
53 femmes dans quel village?
53 femmes dont j'ai eu vent, il y a 38 femmes, dès le jeudi 12, si j'ai bonne mémoire, au sud-ouest d'Arbinda, et 15 autres femmes au nord-ouest d'Arbinda.
Alors, donc, ces femmes, dit-on, étaient parties cueillir des fruits sauvages. Était-ce dû au manque de vivres ou bien une habitude dans cette saison de l'année?
Effectivement, c'est pas un manque par rapport à l'année, mais c'est la conséquence, effectivement, du manque de vivres au niveau d'Arbinda. Parce que depuis un certain temps, effectivement, au niveau d'Arbinda, le convoi se faisait rare. Les peu qui étaient rentrés avec le convoi, je pense que ça fait près de 40 jours, le convoi n'est plus reparti là-bas. Avec le nombre de déplacés élevé, c'est normal que les gens se retrouvent sans quelque chose sous la dent. Donc, je peux conclure que c'est le fait qu'il n'y avait plus de vivres parce que nous avons entré depuis près de 2 à 3 semaines. Les gens vivaient des jujubes et des fruits sauvages. Connaissant la zone, savons qu'à pas plus d'un rayon de 5, 6, 7 kilomètres, c'est un peu difficile pour les uns et les autres. Comme les femmes étaient jusqu'à présent à l'abri des frappes ou des attaques terroristes, c'est uniquement ces femmes qui pouvaient sortir pour aller chercher aussi bien le bois de chauffe que le fruit dont nous sommes en train de parler, ou bien les feuilles sauvages pour quand même pouvoir mettre quelque chose sous la dent.
Est-ce que vous avez des informations de dernière minute en ce qui concerne ces enlèvements de femmes?
Oui, nous avons des informations. Nous savons qu'elles se portent bien, mais on ne peut pas dire plus parce que c'est les exposer davantage. Nous ne sommes pas les seuls qui vont écouter cette interview. Sinon, nous avons les informations, les sources par rapport à un certain nombre de choses.
À leur localisation. Alors déjà, certaines sources évoquent que certaines femmes se retrouvent de l'autre côté de la frontière, du côté du Mali. Est-ce que vous confirmez cela?
Je pense que c'est un amalgame. Voilà, je pense que c'est un amalgame. Effectivement, la femme qui a été retrouvée vers Koro, les autorités locales de Koro nous ont touchés. Effectivement, ils ont pu l'identifier, c'est Indalbinda. Mais je ne pense pas qu'elle fait partie des femmes qui ont été enlevées tout de suite.
Et comment est-ce que vous vivez cette situation en tant qu'ancien élu?
Non, en tant qu'ancien élu ou pas, même si je n'étais pas élu, faisant partie quand même d'un des ressortissants de la population d'Arbinda, je suis inquiet, je suis désemparé. Mais il ne faudrait pas nous laisser divertir. parce que pour moi, dans mes analyses, je pense bien que c'est une nouvelle stratégie de ces groupes armés terroristes. Et si nous ne faisons pas attention, peut-être on va faire assez de polémiques et causer plus de dégâts. C'est déplorable pour la population, c'est parce que moi-même j'ai mes parents qui font partie de ces femmes.
Une nouvelle stratégie, on devrait prendre garde pour être un peu plus précis.
Une nouvelle stratégie parce que si les gens ont la mémoire courte, je pense qu'à un certain moment, ils avaient déployé une des nouvelles stratégies du moment que certaines zones ne sont pas accessibles. Si vous prenez Albinda particulièrement, ils ont des difficultés pour pénétrer la ville d'Albinda. Voilà. Et nous savons que s'ils enlèvent ces femmes, il y aura des réactions, que ce soit du côté des FDS que du côté des volontaires. Voilà. Donc, c'est ne pas tomber dans leur stratégie, mais déployer une nouvelle stratégie qui permettrait de récupérer les femmes. Auparavant, ils sabotaient les points d'eau, les forages. C'était pour attirer les uns et les autres dans leur piège.
Donc, cela pourrait être un piège pour que si jamais il y a des ambitions pour chercher à retrouver ces femmes, que les FDS tombent dans le piège.
Voilà. Moi, c'est ce que je pense en toute honnêteté. C'est ce que je pense en toute honnêteté.
Alors, la ville d'Arbinda sent-elle un changement depuis les différents coups d'État du MPSA?
Oui, je dirais qu'il y a quand même un changement. Le changement peut être positif ou négatif. Voilà, parce que le MPC, rappelons qu'il y a eu deux coups d'État. Aujourd'hui, nous sommes avec le MPC 2. Avec le MPC 1, moi, je dirais pas, je ne parlerai pas uniquement de l'Arbinda, je parle de l'ensemble du Burkina. Parce que s'il y a une stabilité sécuritaire au niveau de l'Arbinda et que dans les autres zones, il n'y en a pas, je pense que c'est peine perdue. Alors donc, si nous devons analyser, il faut tenir compte de l'ensemble des zones à fort défi sécuritaire, comment ça se passe. Et je pense qu'avec les MPCR 1, le discours qu'on a reçu ou qu'on a acclamé au début par rapport à reconquérir le territoire, mais nous nous sommes rendus compte sur le terrain que la parole n'est pas jointe à l'action. Je ne dirais pas que les MPCR 2, c'est la bienvenue, parce que les coups d'État ne servent pas, ça ramène toujours le développement en arrière d'une manière ou d'une autre. Mais avec le MPCR 2, en tout cas, ce que je peux dire avec les nouvelles stratégies que le nouveau gouvernement a déployées, nous entendons par-ci, nous confirmons par-là que ça se passe bien. Je peux prendre quelques exemples tels qu'à Solenzo, qu'on a pu récupérer la ville de Solenzo, et tout dernièrement aussi à Falangountou, comme à Séba. Et au niveau d'Arbinda aussi, comme vous avez posé la question sur Arbinda, je pense que depuis que le MPCR 2 est là, en tout cas pour ce qui concerne les attaques, les GED, nous n'avons pas enregistré. Nous n'avons pas enregistré, sauf que ce que j'ai dit, que c'est des nouvelles stratégies qui sont mises en place et que ces nouvelles stratégies aussi ont des conséquences. Voilà. Si vous constatez de gauche à droite, effectivement, avec les nouvelles stratégies mises en place, ça ne permet pas aux convois de faire des rotations rapides. La conséquence est que les gens se retrouvent effectivement sous alimentation.
Merci à vous, Bourema Ouerem.
Merci bien.
À l'instant, notre invité, l'ancien maire de la localité d'Arbinda, Bourema Ouerem. C'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Merci de l'avoir suivi. À la retransmission Facebook, Yaya Diomandé, qu'il n'oublie pas de porter son casque en circulation. Faites comme lui lorsque vous êtes à moto. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.